voici donc mon premier projet de loi.
Superdon Punish.
Légaliser la drogue. Avec une prise en charge, c'est une mutuelle, bien entendu.
Parce que c'est notre projet!
Nos grands dirigeants vont pas casser les nougats. Je soupçonne que 9 décisions de merde sur 10 sont prises à 4h du mat sous le prise de la cocaïne.
Oui, c'est pas bon.
Sur Radio Galère.
Est-ce que tout le monde nous entend? Ça y est?
Je pense que oui, hein.
Allez.
C'est tout bon?
Ben bonjour.
Bonjour à
bonjour
toutes et à tous.
Toutes et à tous.
Bienvenue.
Bienvenue sur Radio Galère 88.4. Voilà, on vous attend.
On est super content d'être là.
Voilà.
Aujourd'hui, on est le 26 juin 2024.
Il fait beau, il fait chaud.
Et on est où?
Et on est sous les escaliers de Saint-Charles.
Les magnifiques escaliers, je dirais même.
Très magnifiques escaliers, en effet.
On est place des Marseillaises, précisément. On est ravis d'être là. On est ensemble jusqu'à.
Jusqu'à 18h, hein. 16-18, les gars.
18h.
Mais
qu'est-ce qu'on fout là exactement?
On est là pourquoi?
Eh bien, le 26 juin, depuis 2013 et dans le monde entier, figurez-vous que c'est la campagne mondiale Support
Don't Punish.
Incroyable.
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 Support Don't Punish, soutenir plutôt que punir. On est là pour réclamer la fin de la guerre à la drogue et la fin de la criminalisation des personnes qui consomment des produits, surtout les plus précaires. Ça va vous?
Moi, ça va très bien. Bah, écoute, je suis avec vous, je suis heureux. Il y a du soleil, il y a des gens.
Parle bien dans le micro.
Ouais.
Aujourd'hui, on est là, et même si c'est un exercice très difficile, on va prendre la parole en public pour tenter de parler de tout ça. Sans raccourci, avec authenticité et respect.
On va parler.
On va parler conso.
On va parler conso.
Conso, drogue.
On va parler toxico.
Toxicomanie, je dirais.
Toxicomanie, mais toxicophobie aussi.
Toxico, c'est une personne qui consomme.
On va parler de ce qui se passe à Marseille actuellement pour les personnes qui utilisent des drogues. Pendant ces 2 heures de radio, on va aller à la rencontre des Marseillais, des personnes qui consomment
des
drogues. Et des Marseillaises, merci. Surtout qu'on est place des Marseillaises. On va aussi aller à la rencontre des assos qui accompagnent les personnes qui utilisent des drogues. On va parler logement, stigmatisation. On va apprendre des mots comme le mot toxicophobie. On va découvrir des pratiques et surtout, on va se faire kiffer.
Et on est va avec... vous faire kiffer.
On va vous faire kiffer. On est avec Lilith, Toto.3132 et Ruby.
Et Ruby.
La vie des personnes qui utilisent des drogues, elle est pas rose tout le temps. Mais les problèmes sont souvent invisibilisés. C'est ça qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui avec vous. On vous invite à venir prendre la parole sur le plateau. Et
de parler de tout sans tabou, je pense. Hein, on va dire ça comme ça.
Voilà, sans tabou, sans jugement.
Faut pas avoir peur, aucun jugement. On est tous là pour pour parler, pour s'entraider aussi si quelqu'un a besoin de parler. Enfin,
exactement.
Voilà, on est ouvert à tout.
Génial. On se lance un petit son d'intro. Allez, c'est parti. Merci à toutes d'être là. Merci à tous d'être là. On est ensemble jusqu'à 18h sur les ondes de Radio Galère. 88.4 FM.
Yeah.
Et c'est reparti, on est toujours ensemble sur le plateau de Radio Galère à l'occasion de Support Don't Punish 2024.
Et on va vous parler de la toxicophobie.
Wouhou ! Allez, c'est un quiz. La toxicophobie, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors, toxico... Que veut dire toxico, déjà ?
La consommation de...
De drogue.
De drogue.
Que ce soit de l'herbe, de la cocaïne...
Légal, illégal, voilà. N'importe.
Et moi, je pense que toxico, aussi, c'est une dépendance. Je pense que ça veut dire aussi dépendance.
Tout à fait. Mais en fait, le terme désigne maintenant, justement, un sentiment négatif envers les consommateurs de drogue.
Voilà.
Et les consommations de drogue, de manière générale.
Et les consommatrices aussi.
Donc, au même titre que toutes les discriminations, en fait, la toxicophobie, si je comprends bien, c'est... La discrimination des personnes qui utilisent des drogues ?
Voilà, par des médecins, des policiers, des amis, de la famille.
Tout le monde, on est des êtres humains avant tout.
Voilà. N'importe quel être humain, ouais, peu importe son statut, en fait.
Exactement, ce que j'allais dire, le statut.
Et d'ailleurs, quelqu'un, un consommateur peut être de n'importe quel statut aussi. Et il peut se faire discriminer de la même manière.
Moi, personnellement, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai vu des gens... Quand voilà, je faisais je trafiquais un peu, je le voyais avec des avocats, des juges, de toutes sortes d'entourage, de ceux qui travaillent, qui ont des statuts plus élevés que certains d'autres, qui voilà, tout le monde consomme. L'être humain reste un être humain. Après, c'est pas parce que tu travailles, t'es banquier, que t'es juge, que t'es avocat. Que, voilà, forcément, tu consommes pas et que...
Voilà, ouais, il y a une émergence du mépris, alors qu'en fait, on a fait consommer des drogues à plein de gens, dans plein de pays,
et moi,
pour l'utilisation, pour l'État, en fait, donc souvent pour la guerre, mais c'est vrai que maintenant, c'est stigmatisé pour... Oui, pas que la guerre, c'est vrai.
Et puis moi, je le vois, en fait, je le vis tous les jours, donc... Voilà, je vois plein de gens, je veux pas en parler, je veux pas dire leur prénom, voilà, ça regarde personne, mais je l'ai vécu, c'est pour ça que je peux me permettre d'en parler, de dire la vérité. Donc ça veut dire que, voilà, il y a plein de gens qui consomment de ton entourage, que ça soit des gens de la bourgeoisie, ou des gens qui sont moins... qui ont pas d'argent, un peu d'argent, qui se débrouillent, enfin, tout le monde... Comme je dis, un être humain reste un être humain et voilà.
On comprend que voilà, les consos de drogue, de produits, de psychoactifs, elles concernent tout le monde, qu'on soit riche, pauvre, homme, femme, jeune, vieux, vieille. À ce part d'en punir, on croit même que consommer des produits, ça fait partie des droits humains. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La dame qui parle derrière moi, elle a tout dit, c'est naturel.
Exactement, ouais.
Et c'est la décision d'une personne. On n'a qu'une vie. Le cerveau, je ne sais pas si je peux dire, je suis un peu jeune, mais je pense que le cerveau, il a envie de tout tester. Quand tu réfléchis, tu as envie de tester les choses, soit t'aimes, soit t'aimes pas.
Il a envie de dopamine, de sérotonine, de trucs qui font plaisir.
Quand on saute d'un pas en élastique. Quand on saute d'un pont en élastique, l'adrénaline, ça procure quelque chose. Voilà.
Chacun a le droit de la,
de la
tester comme il veut, en fait.
Et puis chaque personne est... Voilà. Après, il ne faut pas que ce soit elle qui te dirige. Il faut que ce soit toi qui arrives à diriger. Mais il y en a qui, tout le monde ne peut pas y arriver. C'est facile de le dire que de le faire. Je le vis aussi, donc je sais de quoi je parle. Et voilà, quand elle prend le dessus sur ta vie, ça peut gâcher beaucoup de choses. Tu peux peut-être pas avoir ta fille, tu perds ta femme, tu perds tes
amis, ta
tes
famille.
Amis, et le regard des gens.
Tard, d'ailleurs.
Ouais, merci de le rappeler. C'est de tout à l'heure, il va y avoir ici Place des Marseillaises. Il y a plein d'associations qui sont représentées aujourd'hui. On remercie tout le monde d'être là.
On remercie
bien sûr notre magnifique technique qui permet à ce plateau radio d'exister. Et puis peut-être que tout à l'heure, on va aller un petit peu à la rencontre des assos qui sont autour pour comprendre un peu c'est quoi d'accompagner des personnes qui consomment. Ça peut être quoi un petit peu les problèmes que rencontrent les personnes qui consomment? Parce que ce n'est pas forcément des problèmes qui concernent les produits. Voilà,
oui, merci. Dans les assos, je voudrais dire aussi qu'il y en a plein qui ont vécu la chose, donc ils peuvent en parler, puis plus t'aider, voilà, ils ont arrêté, ou soit ils ont... Enfin voilà, ils peuvent en parler de ça parce qu'ils connaissent. C'est pas quelqu'un qui vient de... Voilà, d'un monde où il n'a jamais connu, qui vient dans l'inconnu et qui vient parler et faire le... Non, là, c'est des gens que, voilà, et puis ils sont cool, ils sont jeunes, dynamiques, ils sont incroyables. Enfin, moi, personnellement, ils m'ont aidé, j'ai refait des liens avec ma maman, que je parle régulièrement. Voilà. Enfin, c'est incroyable.
L'un des problèmes de la toxicophobie, en fait, c'est que justement, il y a des problèmes familiaux qui peuvent se créer.
Ça détruit tout, c'est
possible. Voilà.
Alors, il y a une copine depuis tout à l'heure, elle lance des slogans,
Pas parler.
Mais par contre, elle est trop timide pour venir sur le plateau.
Allez, viens parler.
Tu es la bienvenue si tu veux venir parler. Chacun d'entre vous est bienvenu aussi.
Si vous
aussi.
Avez des témoignages, des...
Voilà, vous passez au pédiluve juste avant, on vous expliquera tout.
Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas plus stressé que nous.
Comment tenir un micro, et ça va bien se passer. Vous êtes les bienvenus pour prendre la parole, puisque comme
c'est le
pédiluve, dire...
c'est pas de, le pédiluve.
Ah, merci, le pédiluve, c'est beaucoup plus attrayant. Et oui, comme tu viens de le rappeler, Toto.31.32...
Appelle-moi Toto, ce sera plus simple.
Je peux t'appeler Toto, ça sera plus simple.
C'est pour ça que j'ai dit que ça dure 2 minutes.
Mais je sais pourquoi je dis 31-32.
Ça marche.
C'est des gens qui m'aident par rapport à...
C'est une association qui est très aidante. Mais bien sûr.
Exactement. On a tout le temps, ensemble jusqu'à 18h. Voilà.
Exactement.
Soyez nombreux.
Donc on va parler conso, on va parler difficultés, mais on va parler aussi plaisir, puisque comme vous expliquez si bien, on consomme avant tout pour...
Ça procure un plaisir.
Pour le plaisir et peut-être aussi par besoin aussi.
Oui, mais d'abord il y a le plaisir et ensuite ça devient soit une addiction. Donc l'addiction,
en soi, la
plaisir.
Consommation reste la même par rapport aux autres gens. Elle ne doit pas être dénigrée, que ce soit l'une ou l'autre. En fait.
Oui, carrément.
Ça reste au même.
Mais je te reprends juste en disant, tu dis ça devient un besoin. Enfin, ça devient
Ça peut.
Voilà. Il y a le plaisir, il y a le besoin, il y a plusieurs stades avant de devenir dans l'addiction. L'addiction pure.
Il y a plein de
stades.
On peut
être addict du chocolat aussi, des bonbons.
On va parler aussi de réduction des risques aujourd'hui. On apprend beaucoup de mots.
Voilà. Ouais. Avec les associations, notamment Support Don't Punish, bien sûr.
Voilà.
31-32, plus 31-32 aussi, qui fait de la prévention.
À Sud, le Tipeee, qui d'autre ? Manifestez-vous, plus belle la nuit, nouvelle aube,
à Sud, le Tipeee.
Ouais, exactement, ils sont là souvent, très souvent.
N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de parler. On peut peut-être rapidement expliquer ce que c'est la réduction des risques, la RDR. La RDR, c'est une politique de santé qui a donné aux personnes utilisatrices de drogue la possibilité de protéger leur santé. Ouais. En choisissant la façon de le faire. Donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la toxicophobie et que parfois des médecins refusent de nous accompagner si on consomme encore ou nous demandent d'arrêter de consommer pour pouvoir nous accompagner. Ouais. La réduction des risques, c'est une politique de santé qui n'a pas fait ce choix-là, qui a proposé de reconnaître l'expertise des personnes concernées en choisissant... Merci. En choisissant de leur faire confiance et en étant sûr que les personnes qui consomment, elles ont toutes envie de protéger leur santé également.
J'ai envie de vous dire, j'ai envie que ça reste. Voilà, c'est des choses qui sont importantes. L'être humain, il faut qu'il soit, même s'il se fait du mal, il faut qu'il y ait quand même
qu'il y ait une bienveillance,
voilà,
une solidarité.
Qu'il y ait une solidarité, bien sûr.
Une bienveillance envers lui. On peut se droguer tout en étant propre, voilà.
Mais voilà, moi-même, j'ai vécu l'expérience de médecins qui me disaient juste « arrête », parce que j'avais des problèmes
c'est
de santé.
Facile,
et ils me disaient juste « arrête les drogues », ils ne voulaient pas me soigner. Et en fait, ça existe, et notamment par des associations comme le Tipeee, Santé, etc. J'ai pu trouver des médecins qui, justement, n'étaient pas jugeants vis-à-vis usages de drogue.
Je suis personne pour juger, mais pour moi, ce médecin, tu vois, de dire juste le mot arrêter, c'est hyper facile. Il n'est pas dans ta situation, il n'est pas dans ton corps, il n'est pas dans ce que tu as vécu. Donc
disons que c'est une stigmatisation.
Oui, exactement. En tout cas, toutes les assos qui sont là, c'est incroyable qu'elles soient là, parce qu'au final, ça aide beaucoup de gens. Enfin, il y en a peu qui, je pense, qui réalisent, mais il y en a beaucoup de gens qui tombent dans la drogue. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider, que ce soit psychologue, aide sociale, prévention, enfin incroyable. Voilà, moi je dis juste le mot incroyable. Ils sont là, ils sont géniaux, tous. Et ouais, c'est comme une famille, ils sont incroyables. Voilà.
Mais c'est magnifique. En plus, tu nous sers la transition sur un plateau d'argent, Toto, puisque on va se faire une petite pause et puis on va aller à la rencontre de toutes ces assos qui sont là, comprendre un peu mieux c'est quoi leur travail, comment ils fonctionnent.
Ouais,
je vous invite à rester à l'écoute.
Bah ouais.
À toutes.
Allez, qui fait bien la musique. Allez.
Bonne musique à vous.
Super, et ben vous m'envoyez ravi. Alors, juste pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Douli, et je vous rassure, non, je ne suis pas bourrée. Voilà. Et juste que Dame Nature m'a fait cadeau de cette jolie voix d'ivrogne, voilà. Quelquefois, Dame Nature est généreuse, moi je suis née avec ce don. À 4 ans, je pouvais imiter Jean Gabin. Jean-Bier, je veux 2000 francs, Jean-Bier! Voilà, ça faisait bien marrer mes potes, beaucoup moins ma mère, qui avait toujours rêvé d'avoir une fille, la pauvre. Non, je bois pas. Enfin, je bois plus, j'ai tout arrêté, les gars. J'ai arrêté la drogue aussi. J'étais héroïnomane de 19 à 22 ans. C'est un petit peu tôt dans la conversation pour le dire. Ouais, peut-être. Mais j'aime bien donner une bonne impression dès le départ. Voilà, je suis sobre depuis 2010. Alors, que dire de la sobriété? Eh bien, vous savez, pour moi, la sobriété, c'est un petit peu comme le gratin de chou-fleur à la cantine ou la fellation. Tu vois, au début, bon, t'es pas très motivé. Et puis après, bah, t'es pas très motivé, mais t'as pas le choix. Non, je bois pas. C'est pas facile de pas boire en France. Hein. C'est quand même le seul pays où quand tu dis « je ne bois pas », on te répond « oh !» C'est très bizarre comme réponse. Oh, mais c'est vrai, on fait jamais ça avec les autres drogues. Bah, tu te piques pas. Oh ! Attends, tu vas bien te faire une petite picouse avec nous, allez, quoi, une soirée goulette, c'est vendredi soir, oh là là, t'es pas drôle. Hein, je vous promets, c'est pénible de passer pour une rabat-joie parce que je bois pas. Et puis, tu sais, c'est difficile de me justifier, moi, si je dis, oh ben non, t'inquiète, j'ai pas toujours été rabat-joie, avant je prenais de l'héro. Bon, bah, il y a comme un blanc, tu vois, ça casse un peu l'ambiance, quoi. Ah, moi, j'y suis allée à fond, hein, vraiment. Avec tout ce que j'ai pris dans ma vie, vraiment, si je me mets au vélo, oh, je fais le tour de France. En une matinée, c'est torché. À midi, je suis sur les champs. Ah, le dernier moustique qui m'a piqué, il est encore sous Subutex. Hein. Enculé de moustique, ça lui apprendra. Non, je suis très, très contente d'avoir tout arrêté, vraiment. Il y a quand même, dans l'alcool, un truc qui me manque. Quand tu picoles, tu te souviens de rien. Et ça, moi, je préférais. Hein, quand j'oubliais ce que me disaient mes potes bourrés. Non, voilà, ben, je suis sobre depuis 10 ans, voilà. Et honnêtement, c'est tellement dur de faire le deuil des sensations fortes quand on a été addict que pour m'encourager, je me suis dit un truc. Le jour où je suis vieille, je reprends toutes les drogues, les gars. Je vais m'en foutre plein le buffet sans aucune culpabilité. T'es vieux, c'est fini. Personne va te dire, dis donc, au lieu de te défoncer comme un sagouin, tu pourrais essayer d'être utile à la société. J'ai 85 ans. Utile à quoi? À encombrer les trottoirs? Non, la vie d'un vieux, c'est comme une boîte de thon. Tu vois, quand tu l'ouvres, ça pue. Mais après, bah, faut aimer le thon, quoi. Non, je vais me défoncer la gueule tous les jours, les gars. Si on me cherche après 85 ans, je serai porte de la chapelle, en permanence. Évidemment, le LSD, vieux, les gars. Mais oui, là, d'un coup, ton EHPAD pourri dans la périphérie de Châteauroux, ça devient Disneyland. Hein? Et puis, alors, moi, je me suis jamais piqué, mais vieille, je commence sérieusement le shoot. Ben oui, parce que l'avantage, c'est que t'as pas besoin de chercher la veine très longtemps avec les varices. Hein? Tu peux même piquer à travers les bas de contention. Et puis si tu vois rien à cause de la cataracte, tu t'en fous, tu te fixes au toucher, voilà, bim, tu gagnes à tous les coups. Il y a que des avantages. Dans un élan de générosité, je me vire le dentier, déchiré au GHB, turlute pour tout le quartier, en roue libre. Ah, puis là, tu t'en fous, hein, de faire de la merde ou de dire des conneries. Tous tes amis sont morts. Et techniquement, tu n'as pas le temps de t'en faire d'autres. Hein, donc, en roue libre, tu peux même enlever les roues à ce stade-là. Non, et puis la drogue, ça ne t'empêche pas de garder des liens avec tes proches. Oh, regardez, c'est mamie Meumeu qui nous envoie une carte postale de Goa. Ah bah elle a écrit un truc pour une fois. Pensez à arroser ma beuh, j'embrasse. Ah mais ça fait voyager la drogue. Non puis là tu peux passer des tonnes de cam. Qui va contrôler que ton bichon maltais ne respire plus beaucoup et qu'il est empaillé à la coke? Personne. Alors oui c'est vrai, 85 ans c'est pas demain. Alors je sais ce que vous vous dites. Comment elle va faire la pauvre, hein, pour tenir jusque là? Elle a plus aucun vice.
Allez, c'est reparti.
C'est reparti. Donc,
on est toujours là, place des Marseillaises, pour Support dans le Punish.
88.4 FM, on vous attend avec grand plaisir. Donc là, on va parler avec des gens, donc plusieurs équipes associatives qui s'occupent de la prévention, de l'addiction, des psychologues. Enfin, vous allez voir, on vous attend, vous allez voir, vous allez kiffer à fond. Et puis il faut être à l'écoute parce que c'est important, c'est quand même un sujet, c'est pas...
C'est fondamental, c'est politique. On est là aujourd'hui pour faire du bruit, pour s'exprimer, on n'a pas souvent l'occasion. Et du coup nos collègues, on les cherche, ils sont où?
Où êtes-vous?
Coucou. Alors qui vous allez nous présenter en premier? Personne, ça discute, ça... Allô, les micros roulants.
Est-ce qu'on est là?
Vous êtes là, on vous entend parfaitement.
On vous entend.
Alors, quelle assoce vous allez nous faire découvrir en premier?
Le Tipeee.
Incroyable.
Alors, attends, on a un problème de mic.
Ouais, vous travaillez à la mairie, c'est ça? Ouais, bonjour, donc...
Écoute, du coup, on va continuer, toi et moi.
On vous entend. Pas de soucis.
Vous vous présentiez, que vous dites...
Ah, mais on a l'interview de la première adjointe à la santé de la ville de Marseille.
Incroyable.
Par notre collègue. Allez, c'est parti en direct sur Radio Galère 88.4.
Oui, bonjour. Alors, je suis bien sûr la première adjointe de la ville de Marseille, mais je suis accompagnée du service santé de la ville de Marseille. Donc, je ne viens pas seule. Je viens aussi avec les responsables du service santé de la ville de Marseille qui sont très impliqués dans la prise en charge de ce problème des usagers de drogue. Voilà.
Par rapport à le problème actuel des ouvertures des salles
de consommation,
où s'en est et quelle est la progression vu les difficultés?
Très bonne question.
Où s'en en est, moi je suis toujours désireuse d'ouvrir une halte soins addiction au sein de la ville de Marseille parce qu'on en a besoin. Parce que c'est un outil indispensable dans la réduction des risques. C'est un outil de santé publique. Donc on a eu quelques soucis à la mise en place de la salle de consommation qui était présumée. Donc de toute façon, on ne baisse pas les bras et on continue à travailler, main dans la main avec l'Agence régionale de santé, pour essayer de trouver un moyen d'ouvrir cette halte soins addiction. Mais comme les agences régionales de santé, leur survie dépend un petit peu des résultats prochains des élections législatives, on va dire que ce projet est pour l'instant en stand-by. Mais c'est toujours une volonté forte de la ville de Marseille de mettre en place une halte soins addiction.
Merci beaucoup.
Du coup, on se dirige vers le...
Nous allons nous diriger vers le bus 31. Oui. Voilà.
On a ici voilà. Christine.
Donc, bonjour. Présentez-vous, dites-nous un peu ce que vous faites au bus 31.
Donc moi, c'est Christine. Je travaille au laboratoire d'analyse de produits, le Drug Lab, du bus 31. Enfin, là, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je travaille aussi à direction de Meta.
D'ailleurs, donc, on en parlera tout à l'heure. C'est un point très important de...
La délivrance de méta.
Là,
je peux déjà vous parler du laboratoire. Donc, on a un laboratoire de produits psychoactifs. On fait des analyses quantitatives et qualitatives en HPLC, chromatographie liquide haute performance, à destination des usagers de drogue pour qu'ils connaissent la composition de leurs produits et pour pouvoir entamer avec eux des discussions sur la réduction des risques. Donc on analyse pour différents publics, ça peut être la cocaïne de rue, quand il y a eu des effets secondaires ou pas, ça peut être les gens qui ont acheté sur Internet et qui veulent savoir qu'ils aient des effets secondaires ou pas, et c'est toujours l'occasion de discuter avec eux de leur consommation et de discuter avec eux de réduction des risques matériels, consommation,
de rassurer,
mélange,
de prendre soin d'eux.
Rassurer, informer, faire les choses en connaissance de cause.
Une autre question.
C'est génial.
Ouais, une autre question. Franchement, c'est. Vous avez énormément de personnes qui viennent au centre. Au bus 31, vous avez énormément de personnes.
On a pas mal de personnes qui viennent directement au local. On a des permanences le mardi, matin et après-midi. On a aussi le chill-in qu'on fait avec Plus belle la nuit, où on peut accueillir un public différent. On travaille avec pas mal de structures collectrices partenaires dans toute la région, tous les Carudes.
D'ailleurs,
etc.
Le chill-in qui fait aussi des sessions avec les LGBT, etc.
Oui, tout à fait.
Que j'ai pu suivre notamment, d'accord. Qui sont très intéressantes et qui proposent plein d'alternatives, enfin, plein de solutions.
D'accord. Donc pour faire tourner le labo, on est trois avec ma collègue Gaëlle et Alma. Et voilà, on a des permanences et de l'accueil aussi. On analyse aussi ce qui arrive par les partenaires. Et on travaille en partenariat avec l'OFDT, avec Synthèse, le système national d'identification des toxiques et substances. Et contrôle qualité aussi avec la Timone. Enfin bon, on a une... On a un site internet hyper intéressant, j'allais oublier, sur lequel les gens peuvent aller chercher leurs résultats, mais aussi peuvent avoir plein d'informations sur les produits, sur les mélanges, etc.
Il s'appelle ?
Le site internet s'appelle druglab.fr.
Et je vous pose encore une dernière question. Actuellement, vous avez constaté, par rapport aux drogues qui tournent, des certaines anomalies au niveau des drogues. Qu'est-ce que vous conseillerez un peu aux usagers, quel conseil vous leur donneriez par rapport à ce qui tourne actuellement?
En fait, ce qu'on a pu voir dernièrement, c'est une variation de la composition de la cocaïne, par exemple, qui peut être très fortement dosée ou alors très coupée. Donc, passer de l'un à l'autre, il peut y avoir des surdoses. Donc, de toute façon, c'est toujours le premier conseil de commencer par une plus petite dose, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a. Si on n'a pas fait analyser avant, on ne sait pas. Et voilà.
Très bien, mais je vous remercie beaucoup.
Alors, nous allons... Viens... Non. Et si ça marche.
Ouais, bah, je viens voir... bonjour. Tu peux te présenter?
Bonjour, moi je m'appelle Clem. Je travaille pour l'association Assud Marseillais.
D'accord. Et quelle est l'activité
Qu'est-ce que vous faites voilà. Par rapport au cons...
Alors, on a trois dispositifs. Le plus gros, où il y a le plus de collègues, c'est le CARUD, donc un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, qui se fait par une équipe qui est à la fois mobile, mais qui a aussi un lieu qui s'appelle le Tipeee, qui est à côté de la place Jean Jaurès, de la Plaine, à Marseille. Où on accueille les personnes, on a un programme d'échange de seringues. Il y a des collègues là du CARUD qui pourront en parler mieux d'ailleurs si il et elle le souhaitent. Ils ont l'air de tous se cacher, mais
je pense qu'ils font ça.
Raconter ce qu'ils font à leur place.
Je pense qu'ils font ça dans la partie RDR qu'ils connaissent bien, je pense.
En deuxième dispositif, nous avons le Tipeee Festif avec la super équipe de bénévoles qui est là, qui a installé tout l'espace aujourd'hui. Et pareil, on pourra leur donner la parole après. Donc eux, ils vont vraiment sur les fêtes illégales, donc les teufs plutôt à la campagne. Et moi, je travaille pour un dispositif qui s'appelle l'Observatoire et Défense des droits des usagers. Alors du coup, j'accompagne, je donne des conseils juridiques à toutes les personnes qui ont des problèmes, peu importe leurs problèmes de droit. L'idée, c'est d'essayer de faire respecter leurs droits au maximum, de trouver des stratégies pour faire ça. Voilà, si les personnes sont victimes de discrimination, que ce soit à l'hôpital, chez le médecin, ou si des personnes ont des problèmes de droit X ou Y par rapport à des sujets différents, mais en tout cas, je serai là pour les accompagner. Voilà.
Merci. Tout bon ? Eh ben, merci Clem.
Alors, allons voir le milieu illégal, le milieu du festif illégal, monsieur.
Voilà.
Ou madame, d'ailleurs. Alors, comment ça se passe? Que fait-on? Que propose-t-on dans le festif? dans le festif tout court d'ailleurs.
Globalement, on propose la même chose que dans un Carud, juste vu que c'est un milieu un peu plus. Vu que c'est un milieu un petit peu plus particulier, les choses elles sont un peu plus réduites. Donc on fait un stand où on propose de la réassurance, on propose du matériel, on propose plein de choses. Et les gens ils viennent nous voir, ils peuvent du coup prendre du matériel ou s'ils sont pas bien, venir discuter avec nous. S'ils se sont fait mal, il y a la bobologie, du coup on peut prendre soin d'eux, mettre un petit pansement là où ça va pas, que ce soit psychologique ou physique. Et globalement c'est un peu ce qu'on fait. Voilà.
Ok, bah merci. Merci, c'est très gentil. Quelqu'un d'autre sur le Tipeee ou on passe au bus
vous, bonjour, présentez-vous.
Bonjour, donc du coup je m'appelle Marie, à côté de moi c'est Mainrad et on est l'association Aide à Marseille.
Et quelles sont les activités que vous faites, qu'est-ce que vous proposez?
Alors nous à Marseille, à Aide Marseille, on n'a pas de Carud, mais du coup on propose des actions de rue auprès effectivement plutôt centrées sur la question de la santé sexuelle. Mais du coup il y a la consommation voilà qui intervient aussi dans nos entretiens, donc on propose systématiquement du dépistage VIH, VHB, hépatite C et maintenant syphilis et aussi l'ensemble du matériel de réduction des risques.
Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre intervention.
Vous êtes présent beaucoup en centre-ville?
Alors, on porte un centre de santé sexuelle communautaire qui est au 3 boulevard Longchamp, donc qui est sur place. Et aussi, on mène des actions en rue, un peu partout, au centre-ville ou extérieur.
Ouais. Ok, parfait.
Ok, parfait, merci.
On va revenir
sur le plateau.
Au plateau.
Jingle.
Et c'est parti.
Ça a été les enfants.
Et... Merci pour ce micro-volant. On va passer un petit son avant de continuer sur les plateaux. Je sais pas, comme vous voulez. Je pense qu'on a beaucoup parlé et ça peut être pas mal aussi de lancer un petit son. Tom, tu es avec nous? Yes. Merci la technique.
Avant de pourrir, resserre-moi un verre qu'on efface tout souvenir. Tu me raconteras la soirée pour le meilleur et le pire. Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. Si cette nuit est la dernière, je sais à quelle heure partir. Putain de quotidien dont je souhaite m'affranchir. J'attends que le jour se lève avant de m'autodétruire. J'ai la gueule charbonneuse de mes jours de turbin. Dernier bus le soir, premier train du matin. Les nids d'emmerde m'attirent comme la peste. Au lendemain d'un soir de tease, le souffle qui empeste. Les qui colle à la bière et à la crasse. En fin de soirée, cousin, tu peux nous suivre à la trace. Les rêves qui déchantent caressent tous le même chien. Toutes les nuits, je réinvente le même parcours assassin. Je recherche les endroits sombres à l'heure où il se fait tard. Je fomente avec les rats, la grisaille, les cafards. Nos séquelles, nos angoisses, dans tout schéma brutal. On s'en remet à ce que la nuit a enfanté de plus sale. Je pense qu'il reste à la clairvoyance des fous. Du ciment, une truelle pour mon cerveau et ses trous. Ma connerie en moins, tu trouverais le temps long. Change de trottoir. Arrête de poser des questions. Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. J'ai des bornes et des barres à franchir avant de pourrir. Resserre-moi un verre qu'on efface tout souvenir. Tu me raconteras la soirée pour le meilleur et le pire. Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. Si cette nuit est la dernière, je sais à quelle heure partir. Putain de quotidien dont je souhaite m'affranchir. J'attends que le jour se lève avant de m'auto-détruire. Je ferai un chemin dans ce beau monde, un chien de destin. J'ose plus me regarder en face sans me tordre les intestins. La couche de crasse devient plus qu'épaisse.
Et jour après jour je me demande pourquoi je régresse. La quiétude, un luxe que très peu de gens s'octroient. Pour le reste ça se passe à la pharmacie d'en bas. Y'a de quoi se remplir la tête, vider le chargeur plein de fois. Tu te réveilleras minable et tu recommenceras. Affûtant, rang serré, quelques lignes de courtoisie. On discute sans conviction en attendant que tu aies la nuit. N'écoutez qu'à moitié des histoires sans entrain. On a créé plein de trucs pour encaisser son prochain. Des pilules roses et des coups de pierre tournés. Enchaîner les coins d'ombre pour supporter la soirée. J'évite certaines rues et leurs boîtes en carton pâte. En ce qui concerne mon engeance, inutile de débattre. Tu me raconteras la soirée pour le meilleur et le pire. Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. Si cette nuit est la dernière, je sais à quelle heure partir. Putain de quotidien dont je souhaite m'affranchir. J'attends que le jour se lève avant de m'auto-détruire. J'ai des bornes et des barres à franchir avant de pourrir. Resserre-moi un verre qu'on efface tous souvenirs. Tu me raconteras la soirée pour le meilleur et le pire. Qui m'aime me suivre que les autres aillent mourir. Si cette nuit est la dernière, je sais à quelle heure partir. Putain de quotidien dont je souhaite m'affranchir. J'attends que le jour se lève avant de m'auto-détruire.
On réouvre les micros sur les plateaux des Radio Galères aujourd'hui à la place des Marseillaises, en bas de l'escalier de Saint-Charles. On a déjà entendu plein de voix, plein de récits, et on est là maintenant pour parler des consos et logements en général. Logement du coup qui peut être à la rue, du coup pas des logements, mais aussi des galères des logements en général. Je vous invite, si vous nous entendez à la radio, à nous rejoindre ici parce que la situation est extrêmement chouette. Il y a plein de tables, il y a plein de stands, il y a plein d'affiches partout. Et je me présente déjà, je m'appelle Zouzou et je suis là sur les plateaux avec
Sacha. Et puis on a aussi...
Speedlight ou Nini, comme vous voulez.
Voilà. Et je sais pas...
on va inviter aussi d'autres personnes à discuter avec nous, mais pour l'instant voilà, on est nous trois.
Et du coup aujourd'hui on voulait, donc comme le disait Zouzou, vous parler un peu des galères de logement liées au fait de consommer. Et comme toujours on vous parle du ici et du maintenant. On est bien à Marseille, on est place des Marseillaises, même en plein cœur de la ville, et on va se parler de ces galères-là pour ici, pour ce qui est de Marseille. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec tous les gens qui vont nous parler aujourd'hui, on voulait juste rappeler qu'il y a une loi, la loi Casbarian, qui est passée l'année dernière, qui a été portée par le ministre du Logement. Elle est plus couramment appelée loi anti-squat. Et on voulait juste dire que c'est une loi qui a eu pour effet d'augmenter les expulsions de 23% entre 2022 et 2023, ce qui a des fortes conséquences sur toutes les populations précarisées ici à Marseille, mais ailleurs aussi. Et on voulait juste ajouter qu'il y a 38 000 appartements vides à Marseille, dont 17 500 sont vides depuis plus de 2 ans. Donc voilà, pour raconter un tout petit peu, donner un tout petit peu de contexte sur ce qui se passe à Marseille et rappeler qu'il y a du vide et qu'on peut, l'habiter. Voilà. Et ce contexte, du coup, il concerne aussi, et notamment aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler, les personnes usagères de drogue. Et on voulait juste finir cette introduction en disant que voilà, c'est ces conditions aussi de précarité extrême qui produisent des dommages sur les usagers et usagères de drogue plutôt que la prise de produits. Et on va s'en parler tout de suite ensemble avec, avec nos invités. Et du coup, merci beaucoup à toi, Minu, d'être là avec
bonjour,
nous.
Bonjour. Ben voilà, moi, j'ai vachement bien galéré. J'étais vachement dans les produits et tout ça. Je faisais ça dehors, squattage et tout ça. Et les risques, et ben, il y a les maladies qui craignent plus. Et j'ai rencontré une association qui s'appelle Chez Soi d'abord. Et j'ai eu la chance d'avoir un suivi par eux. J'étais suivie par eux pendant 5 ans. Ils m'ont vachement aidée. Les produits, j'ai un petit peu reculé. Ça m'a aidée à prendre de la distance un peu aux produits. Maintenant, je vais mieux. J'ai eu mon appart par eux. J'étais suivie pendant 5 ans. C'est une bonne association. Ils prennent tout le monde. Il y a pas de toxicomanes à l'écart et tout ça. Souvent, ils travaillent avec eux parce que c'est là où il y a plus de gens qui sont dans la rue. Et malheureusement, j'ai vu que il y a des gens que ils n'arrivent pas à prendre leur appartement facilement. Et grâce à ces structures, eh ben, j'ai su faire face. Ils m'ont vachement aidé. Un suivi médical, un suivi psychologue. Des médiateurs de santé souvent, et je suis contente qu'il y ait des médiateurs de santé qui travaillent avec eux parce que justement ils ont connu la galère et tout ça, ça fait qu'ils peuvent plus comprendre notre parcours.
Et c'est quoi les médiateurs de santé, c'est des personnes qui ont connu
c'est avec les personnes qui ont connu les produits, qui ont été dans les produits et tout ça, qui travaillent avec eux. Et en même temps, ils passent avec les éducateurs chez toi et on fait un entretien. Ils viennent dire bonjour, boire un café, tout ça. Et en même temps, médiateur de santé, c'est bien parce que lui, il a connu cette misère, il a connu cette galère. Ça fait qu'en fait, l'éducateur spécialisé, en fait, lui, il a eu son diplôme, mais il a pas galéré dans la rue. Il a pas du tout connu tout ça. Et les médiateurs de santé, ils sont là pour justement à apporter leurs paroles, et ils nous soutiennent quoi, et ils nous comprennent mieux. Alors ça fait qu'en fait les éducateurs, en fait, ils arrivent mieux à travailler avec eux pour qu'ils nous comprennent aussi. C'est plus cohérent quoi, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé. Par contre, j'ai signé mon bail.
Bravo.
J'ai signé mon bail il y a 5 ans. J'ai bail coulissant, en fait, ça s'est bien passé. J'ai travaillé, j'ai su reprendre goût à la vie, quoi, en fait. Et merci beaucoup, hein, Chez Soi d'abord.
Trop bien, merci pour ton témoignage. Dans ces plateaux, on va aussi un peu parler de la salle des conso qui devait se faire à réformer et qui au final ne s'est pas encore faite. Et on est ici aujourd'hui dans ces lieux parce qu'on espère que bientôt il y aura une salle des conso qui peut ouvrir dans cette zone de la ville. On voulait aussi rappeler des statistiques importantes par rapport à la salle des conso à Paris, qui disent que presque la moitié des personnes qui fréquentent cette salle, en fait, c'est sans logement. Du coup, voilà, comme Nini nous l'a très bien expliqué, les liens entre usagers et précarité des logements est très, très forte et il y a très peu de recherches là-dessous. Il y a quand même des recherches qui disent que la toxicophobie, du coup, l'exclusion sociale et... en général, la marginalisation des personnes qui se consomment est un facteur très fort l'effet du coup que cette personne n'ait pas de logement. Et du coup, au-delà des produits eux-mêmes, il y a aussi voilà, la toxicophobie qui empêche une vie sereine et meilleure. Mais on continue à parler de la salle des consommations avec un collectif. Est-ce que je peux te laisser présenter qui tu es et aussi du coup les collectifs dont tu fais partie?
Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Alexis. Merci de nous laisser la parole et merci d'organiser ce plateau radio. C'est super important. Du coup, ouais, c'est ça. Je m'appelle Alexis et je fais partie du collectif Jeudi Oui, pour une HSA à Marseille, donc une halte soins addiction. Ça a été rappelé juste avant par Michel Rubirola, la volonté de la municipalité de Marseille de vouloir ouvrir une halte soins addiction, parce que comme vous venez de le rappeler, il y a une HSA, donc je vais dire HSA juste maintenant, qui devait ouvrir en fait à Marseille et qui devait donc constituer la troisième HSA sur le territoire français, en tout cas en hexagone. Car pour l'instant, il n'y a qu'une seule, deux HSA qui sont ouvertes en France, une à Paris, une à Strasbourg, sous statut expérimental. Donc ce n'est pas encore des dispositifs qui sont rentrés comme étant des dispositifs fixes. Et l'idée de notre collectif, ça a vraiment été de réagir à la fermeture et à l'annulation de cette salle qui était censée ouvrir aux alentours du mois de mars. On est des citoyens, citoyennes, concernés ou non par l'usage de drogue et ou impliqués auparavant dans des associations. Personnellement, je suis bénévole dans une association à Marseille, le bus 3132. Et en parallèle, j'ai aussi des expériences professionnelles, notamment au Québec, en fait, dans des espaces de consommation sécurisé comme une halte soins addiction en France. J'ai pu travailler pendant un an en fait dans un espace de consommation à Montréal et du coup c'est cette expérience professionnelle qui a fait que j'avais vraiment un besoin presque de m'engager pour parler de la nécessité d'une telle salle en France et en particulier à Marseille. Donc comme ça a été dit, la salle elle a pas été ouverte, notamment parce que le dernier stade c'était du coup une signature de toutes les parties prenantes. Donc il y a certes la ville de Marseille qui avait un rôle à jouer, mais pas uniquement, parce que la ville de Marseille elle avait notamment prêté, donné le bâti, donc le lieu qui était situé au 110 boulevard Libération, à pas très loin d'ici. Et c'est vraiment ce lieu qui a cristallisé la plupart des conflits. Le fait que ce soit situé proche des écoles, pour certaines personnes, ça a été un gros enjeu. Moi, personnellement, et là, je parlerai vraiment à titre personnel, il me semble que le fait que ce soit proche d'une école, ça me paraît être un argument assez problématique, surtout quand on parle de droits humains, dans la mesure où c'est un peu nier la possibilité que des personnes qui consomment des drogues soient responsables et puissent juste agir devant des enfants. Et je pense que c'est aussi un peu oublié que ces personnes ont des enfants, qu'elles pourraient même peut-être avoir besoin d'une halte soins addiction d'ici peu. Et c'est aussi, je pense, balayer d'un revers de main le fait que leurs enfants, sans doute, sont déjà conscients et conscientes qu'il y a de la précarité dans leur ville. Ça, pour moi, c'est un argument qui a été souvent asséné, mais qui, pour le coup, n'a pas vraiment de sens, quoi.
Et selon toi, du coup, tu as parlé de la nécessité de cette halte soins. Est-ce que tu peux nous préciser un tout petit peu là-dessus pourquoi ici à Marseille c'est quelque chose qui est nécessaire? On l'a entendu aussi avec la copine tout à l'heure et juste nous donner un petit peu le contexte qui fait que c'est absolument nécessaire là ici à Marseille. Qu'est-ce que ça apporte en fait d'avoir une halte soins dans une ville?
Ta question elle est intéressante et du coup peut-être je répondrai à côté parce que en fait quand j'en ai parlé avec un Marseillais, mais pas à Marseille, j'étais du coup à Montréal il y a quelques semaines et je discutais avec un Marseillais d'origine qui vient de Marseille, qui y a habité pendant longtemps et qui maintenant dirige l'association Cactus Montréal du coup, qui est du coup l'association qui porte la structure dans laquelle je travaillais au Québec. Je lui ai parlé du problème de la non-ouverture de la HSA à Marseille et selon lui il me disait que dans tous les cas c'était pas ce format là qui était adapté, que ça lui semblait presque même dépassé. Et donc moi là quand il me dit ça, après plusieurs mois de motivation, de réunion, de rencontres, de manifs et tout, j'étais un peu là en mode mais comment ça, pourquoi c'est pas nécessaire une halte soins addiction à Marseille, alors même que comme je l'ai rappelé, et là du coup je rentre plus dans les, à mon sens pourquoi c'est intéressant, c'est que d'un point de vue symbolique, le simple fait qu'il y ait que deux halte soins addiction en France me paraît particulièrement problématique, surtout quand on sait que ces espaces permettent de faire diminuer la contamination de différentes, notamment le VHC, mais pas uniquement, et permettre juste en fait tout simplement, et je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas ma spécialité, mais plus de pouvoir permettre et d'accueillir des personnes dans un cadre de soins et d'accompagnement propice en fait à leur consommation. Surtout on a l'image bien souvent d'un espace qui est vraiment laissé à lui-même, et c'est pour ça que nous on bannit vraiment le terme salle de shoot et que ça nous tient à cœur de parler soit de salle de consommation à moindre risque ou alors de halte soins addiction, parce que ça permet vraiment de créer un espace d'accueil, d'échange où la personne pourra aborder sa consommation, récupérer du matériel et in fine consommer, mais pas uniquement. Après pour des résultats, moi je renverrai quand même à l'étude qui a été menée par l'INSERM et qui a été publiée du coup en 2021 et qui précise en fait à travers différents volets socio-économiques sur par exemple les coûts évités dans les urgences et tout ce que du coup ça permet de traiter par exemple directement au sein de la salle et pas d'avoir des coûts qui après vont être répercutés sur les urgences a posteriori. Ou alors aussi pour rassurer les personnes qui pourraient être inquiètes de l'ouverture d'une halte soins addiction, la consommation dans l'espace public tout simplement. Parce que du coup, c'est un peu comme le paradigme de la réduction des risques en général. On se dit, là du coup tu donnes du matériel à la personne et ça va la pousser à consommer. Comme si la personne elle n'est pas consommée de base. Et en fait, ça paraît un peu bête dit comme ça, mais ça nous permettrait juste de répondre aux besoins qui sont déjà là et que je pense la plupart des actrices et acteurs de terrain constatent tous les jours.
Oui. Ouais, je vois l'étude que tu as citée et qui dit très bien qu'en fait avoir une salle de consommation réduit en vrai les risques, les dépenses aussi sanitaires parce qu'il y a moins d'overdoses, moins d'infections, moins de passages aux urgences. Du coup aussi d'un point de vue économique, ça serait que bénéf. Est-ce qu'il y a parmi vous d'autres personnes qui veulent venir nous parler de ce qui change en fait de consommer dans la rue ou consommer dans une salle de consommation ? Il y a des belles images à côté de moi qui expliquent, qui disent beaucoup de choses dans l'espace un peu chill que j'ai à ma droite. Il y a trois images, dont celle au milieu qui représente une salle de consommation et on voit à côté ce qui signifie de consommer dans la rue.
Je vais répondre à ta première question qui est qu'est-ce que ça apporte, ça ?
Ouais, moi, qu'est-ce qui change à consommer dans une salle de consommation plutôt qu'à la rue ?
Moi, je parle pour moi-même, quelqu'un qui prend une consommation, qui va prendre un 10 euros, un 20 euros de coke, il va consommer rapidement, c'est-à-dire devant les gens, devant des enfants, devant des... Et les enfants n'ont pas besoin de voir ça. Désolé pour le son.
Non, c'est pas toi, je crois.
Voilà.
Ah, si.
On a des ondes un peu
Ok, attends, on va échanger deux micros.
Voilà, nickel. Et du coup, moi je pense qu'une salle de consommation, ça apporterait déjà plus de... Parler de la prévention. Je pense que voilà, il y aurait du matériel délivré directement là-bas, pas du matériel dont les personnes sont obligées de les ramasser par terre, car je l'ai vu plusieurs fois, j'ai vu plusieurs choses qui...
Du coup, déjà utiliser du matos qui est stérilisé, est propre.
Toujours changer d'aiguille, toujours changer de que ce soit pour le crack, pas partager la cup, parce que les gens ont peut-être des maladies, ont peut-être des la prévention déjà, c'est faut vraiment l'écouter. Moi, je pense qu'il faut vraiment l'écouter, puis vraiment écouter ce qu'ils nous disent, être attentif, même si moi je le suis pas. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui un rendez-vous, je peux pas le tenir, mais j'écoute quand ça parle de santé, je l'écoute. Et du coup, j'ai été dépisté une première fois à l'hépatite C. J'ai pensé que j'avais encore. Je l'ai plus parce que justement, j'ai écouté la prévention, j'ai changé mes aiguilles. J'ai 22 ans et j'ai envie de
Très bien. Ouais.
La prévention, en tout cas, c'est incroyable.
Ouais, et aussi en général, du coup, consommer dans la rue, tu l'as déjà dit, du coup, tous les matos stérilisés, tout ça, qu'on trouve dans une salle de conso et qu'on ne trouve pas à la rue. Et j'imagine aussi les interactions avec d'autres gens qui peuvent nous faire chier.
Alors, ça, je pense que oui, c'est vrai. C'est quelque chose que. Bon, moi, je l'évite parce que, je l'ai vécu, donc maintenant je sais comment esquiver la chose, comment quand je prends par exemple mon petit truc, je pars dans mon coin, je reste. Mais il y en a quand ils consomment en groupe, ils s'échangent les seringues parce que madame a pété son aiguille, monsieur a cassé sa pipe en verre. Donc c'est plusieurs choses comme ça.
Ouais,
oui, ça je l'ai vécu ça.
Merci pour ton témoignage. Je suis contente, il y a une autre personne qui nous a rejoint sur les plateaux, mais si ça te va, on va lancer une petite pilule. C'est un témoignage Très court. Moi, j'ai dit tout le temps pilule.
C'est adapté.
S'adapter au contexte. C'est un témoignage d'une personne, une chère copine, deux chères copines qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on veut quand même faire passer leur voix et ils vont nous parler de qu'est-ce que c'est de consommer à la rue plutôt que dans une salle de conso. À la technique.
Bon, j'ai eu des appartements, moi, sur Marseille. Mais quand on traîne dans la rue, ben on connaît des personnes. On ne veut pas les laisser dans la rue, donc on les fait venir à la maison un jour, deux jours. Mais après, ils croient que c'est chez eux et c'est plus chez moi, quoi. Donc ça, c'est dur pour moi. Et de m'écarter du centre-ville et de venir sur Bonne-Zène, ça m'a aidé sur ma toxicomanie, sur mes fréquentations. Parce que dès qu'on me voyait, ça y est, on me collait. C'est une galère, quoi. Donc, pour moi, ça a été un grand bien. C'est toujours un grand bien. Voilà.
Ouais, ça permet une stabilité, quoi, de se retrouver seul avec soi-même, quoi. Hein, ouais. De pouvoir faire la part des choses, ni plus ni moins. De savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de pouvoir trouver une stabilité, quoi, ni plus ni moins. Ben, moi, j'ai eu un appartement, ouais. Et j'ai gardé 3 ans cet appartement et on m'a mis le feu dans l'appartement. De là, je suis devenue SDF. Donc ma vie, elle est partie en fumée, évidemment. Plus rien du tout. Et je trouve que c'est quand même une belle galère, quoi, de se retrouver en CHRS à 40 ans. J'ai connu la rue, quoi. Je connaissais pas du tout. Je connaissais avant parce que, bon, plus ou moins, mais pas comme j'ai connu à 40 ans, quoi, je veux dire. A plus rien à voir au-dessus de la tête, voilà. Donc, ouais, c'était un gros, gros coup de galère. Parce que j'ai un enfant, bon, qui est grand maintenant, mais à l'époque, qui avait 12-13 ans. Et voilà, qui a été placé par rapport à ça, ainsi de suite. Bon, c'était tout un engrenage, quoi, de mauvais trucs.
Et puis, dans la période où, du coup, t'avais perdu ton logement, tu dormais à la rue, ou est-ce qu'il y avait par exemple les apparts des potes chez lesquels tu pouvais squatter de temps en temps?
Non, du tout, j'ai pas été dans cette solution là parce que en général quand tu vas dormir chez quelqu'un, faut que c'est soit tu dors chez quelqu'un, tu dors pas comme ça chez quelqu'un, c'est simple, ou tu vas avec des produits, ou alors voilà quoi. Non, j'étais à la Madraguille, un jeune panier avec Sonia à l'hôtel. En hôtel, j'y étais.
On avait le bisou en plus. Ouais, elle pouvait dormir avec moi. Ouais, donc voilà, on faisait CMD, quoi. Hein.
Non, on s'est débrouillé. On s'est débrouillé, quoi, pour pas justement dormir dehors, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était une période. 40 balais, je m'en serais passé, quoi.
Moi, mon premier appartement, j'ai eu à 41 ans, avec un chez-soi d'abord. Alors, c'est une association qui est normalement prise par l'État. Parce qu'il y a beaucoup de faut savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dehors, qui n'arrivent pas à trouver d'appartement sur Marseille, et qu'il y a plein de squats et tout, qui même les squats, ils les ferment. Je connais un ancien éducateur qui s'appelait Jo, pour empêcher de fermer les squats, et il s'est battu encore pour ne pas fermer les squats, parce que les appartements, il y a des bâtiments qui sont anciens, qui sont vides, hein, et voilà quoi. Après, il y a le vice, voilà, moi, mon premier appartement à 41 ans, la première fois, j'ai pas su gérer mon appartement, c'est-à-dire, je désignais les gens qui étaient avec moi dans la rue, mais après, c'est plus chez moi. Il faut se casser la gueule pour mieux remonter. J'ai eu un deuxième appartement. C'était un autre problème. Parce que j'avais jamais eu d'appart, donc je savais pas comment. Pour le loyer, bon, c'était payé, mais à part ça.
Le quotidien, gérer le quotidien. Le quotidien, c'est pas simple quand tu sais.
Pour moi,
pas.
C'était quelque chose que je vivais le jour le jour.
Le quotidien,
je
ne
savais pas comment. À part payer le loyer, c'est tout ce que je savais faire, quoi. Le gérer, oui, je savais remplir mon frigo. Mais après, je faisais venir des gens que je. Ouais. Ça aurait jamais dû faire rentrer chez moi. Et que après c'était même plus chez moi, quoi. Je n'avais même pas le droit à la décision de dire non, oui. Ouais. Pas qu'il me faisait peur de rien, mais j'avais plus le droit à dire un mot. Ils ont envahissé mon espace, quoi. Donc,
ils ont monopolisé.
J'ai perdu beaucoup d'appartements avec un chez soi d'abord. Ils m'ont beaucoup aidé aussi. Parce que me disait le pauvre, il y avait un psychiatre, il y avait une équipe, j'avais un référent, il venait me voir une fois par semaine. Donc il me disait, Sonia, c'est pas de ta faute, ceci, cela. Je m'en remettais en question et ils avaient raison sur toute la ligne, quoi.
Alors la zone, ça discute sur Radio Galère 88.4.
Et on est de retour sur le plateau, tous et tout ensemble. On a une nouvelle personne qui nous a rejoint, Lilith.
Salut, re-salut.
Re-salut, ouais. On voulait juste finir ce plateau sur le logement en te posant un peu la question de... En fait, c'est quoi... ça veut dire quoi consommer en rue? Et du coup, consommer quand on n'a pas de logement, c'est... Qu'est-ce que ça change si on avait un logement ou si on n'en a pas pour consommer?
Alors du coup, j'ai vécu et vu beaucoup ces situations de gens qui consomment même avec du matériel fourni par la RDR, fourni par les assos. Qui ont eu le problème de devoir se piquer entre deux voitures ou alors dans des parkings, dans de la piste, enfin bref, dans des conditions insalubres totales. J'ai moi-même participé à ça et c'est quelque chose... Quand t'as nulle part où aller pour le faire, en fait, tu finis par trouver des endroits qui sont sérieusement glauques, quoi. Et qui donne une super mauvaise image. Enfin, moi, j'ai des potes qui essayaient de se piquer, genre, pas dans des endroits insalubres. Mais le problème, c'est que les gens te regardent très, très mal. Enfin, voilà, il y a une stigmatisation, il y a des enfants, il y a des machins. On n'a pas envie de montrer ça aux gens, ni aux enfants. Du coup, ils se cachaient, mais se cacher, c'est difficile. Et c'est souvent dans des recoins dégueulasses.
Et comme tu le dis bien, encore une fois, c'est la toxicophobie du coup, et la stigmatisation. Exactement. Qui amène à l'exclusion sociale. Au-delà, c'est pas les produits eux-mêmes, mais c'est comment la société elle stigmatise les gens et du coup elle les exclude.
Ouais, voilà. Ils ont peur de déranger. C'est quelque chose qui est vrai. Ils dérangent, en fait, clairement. Donc c'est pour ça que les salles de shoot, avec le projet Eposim par exemple, on a fait des photos sur les conditions de consommation qui étaient dégueulasses et on a proposé justement de construire des salles de conso ici. Ça a été un peu problématique, mais le but c'était quand même justement que les gens en fait puissent juste... C'est pas un appel à la consommation, c'est juste que les gens... Il y a tellement de gens qui finissent avec des hépatites, avec le sida, qui finissent avec des infections, des nécroses et tout. Le but, c'est quand même d'avoir du matériel propre et un truc stérile et tout. Donc, on travaille là-dessus. Ça, c'est pas fait pour l'instant. Mais on espère toujours.
On continue à espérer. Vive la salle de conso.
Et on voulait juste justement avoir un petit point sur la situation actuelle de la... qu'est-ce qui se passe là? Alors, sur la salle de conso, peut-être pour finir sur la salle de conso, on finit avec juste un petit point sur l'actualité de ce truc-là. Et après, on se reparle de logement pendant encore une minute et après, on arrête.
En effet, du coup, nous, le collectif Je dis oui à une HSA à Marseille, on a pu avoir une rencontre avec des personnes de la municipalité et on a pu échanger à propos du projet de HSA. Pour l'instant, les infos qu'on avait, elles datent du coup du mois de mars. Donc ça fait déjà quelques mois qu'on n'a pas de réelles news par rapport à ça. Mais l'idée, c'était qu'au moment où on avait des infos, c'était que la municipalité était encore motivée. Ça vient d'être dit par Michel Rubirola, donc on peut penser que c'est vrai. Après, tout l'enjeu d'une halte soins addiction, c'est que c'est un dispositif gouvernemental et donc géré par l'État, pas que une municipalité. Et donc, forcément, il fallait une signature du ministère de la Santé qui n'était pas là. Donc, en fait, il y avait aussi le manque de présidence, de direction à l'Agence régionale de santé. C'est-à-dire qu'au moment où on a rencontré la municipalité, il n'y avait pas de directeur à l'ARS. Il y avait une vacance de présidence, de direction générale à l'ARS. Et donc, en fait, personne pour porter vraiment le dossier. Donc pour l'instant on ne sait pas s'il y a une personne qui a été nommée, enfin, en tout cas moi j'ai pas l'info, mais c'était un peu à ce stade là. Moi j'ose espérer que les projets avancent et que si HSA il n'y a pas, il puisse y avoir des projets autres qui se mettent en place. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas plus d'informations, mais ce que j'aimerais dire quand même par rapport à la situation actuelle et notamment la montée assez inquiétante de l'extrême droite en France, c'est que du coup si projet de HSA se concrétise, en fait il y a aussi un gros risque que ce genre de projet soit vraiment coupé selon des politiques fascistes hyper inquiétantes, notamment à l'égard des consommateuristes de drogue. Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais finir. Plus à titre personnel, ça n'a pas été discuté au sein du collectif et tout se fait un peu de manière collégiale. Du coup, c'est pas une prise de position du collectif, mais plus assez personnel, une forme d'inquiétude en fait par rapport à la situation politique actuelle et au risque en fait de non-développement des haltes soins addiction un parti fasciste arrive au pouvoir dans quelques jours en France.
Merci beaucoup pour ces derniers mots du collectif et de toi. Et du coup, on a une nouvelle personne qui est arrivée sur le plateau. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots voilà.
Du coup, bonjour, moi c'est Malou. Je travaille pour l'association Nouvelle Aube. Ça a été nommé un peu plus tôt par une personne qui a parlé un peu plus tôt. Donc nous, on intervient sur les squats, notamment, et... Là, on parle du logement, donc je voulais juste peut-être témoigner sur le fait que en 15 ans, les squats se sont énormément précarisés. On voit de moins en moins de squats avec des collectifs, avec des personnes qui ont fait un logement. Beaucoup plus de violence des riverains, de la police, de la municipalité. Du coup, les gens se précarisent encore plus dans des campements. Donc si on rajoute là-dessus qu'il y a des personnes qui sont usagères de drogue, donc comme témoigné un peu plus tôt, ça va être de l'hygiène qui va être très dure. Il y a un gros manque d'hygiène. Et en faisant le pont avec les HSA, ce qu'il y a, c'est que déjà une HSA ça serait bien, mais un truc dont je rêve, ça serait des HSA mobiles pour aller au plus près de tous ces campements et réinformer les gens sur les droits des squats, même si les lois se sont devenues restrictives, mais on a encore des droits. Donc c'est continuer d'informer les personnes sur leurs droits de logement et d'hébergement.
Merci beaucoup pour ces mots. On conclut, on fait un point en cercle. On a commencé en parlant des squats, on conclut en parlant des squats. On rappelle la dernière fois qu'il y a 38 000 appartements vides à Marseille. Et du coup, voilà, c'est une invitation aussi à se les approprier et à trouver des espaces et à créer des espaces où se sentir libre. Et aussi, on espère toujours que la salle des consos va se faire ici à Saint-Charles bientôt. Merci pour nous avoir écoutés. On envoie un petit son parce qu'on a beaucoup parlé. Et du coup, on demande à la régie de nous envoyer la prochaine musique.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, she told me don't worry about it, she told me don't worry no more, we both know we can't go
death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know, yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, I can't feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm
les plateaux ici à la place des Marseillaises en direct sur Radio Galère 88.4.
On est toujours à la journée de Support Don't Punish qui se tient ici à Marseille sur la place des Marseillaises et on va enchaîner notre plateau radio sur à nouveau un petit micro volant qui va se balader autour des stands qui nous entourent et voilà, qui sont partout avec tous les gens qu'il y a sur la place des Marseillaises qui sont là pour cette journée.
Est-ce que Pierrot, tu es là avec nous? Ton micro, il marche bien? Est-ce que tu veux prendre la
parole?
Ouais,
je suis là avec vous, il n'y a pas de souci.
Ok, la parole est à Pierrot qui va nous faire le tour des stands.
Donc, je reviens au stand du festif.
Ça va.
Voilà. Donc, c'était pour que vous nous expliquiez un peu le matos.
Voilà, qu'est-ce que vous...
Alors, on propose des pipes à crack pour fumer la cocaïne ou autre.
Ouais.
Des préservatifs féminins.
Ouais.
Des roules tapaille pour sniffer speed, autre ou kétamine.
Ouais.
Du sérum fi pour se nettoyer le nez, se lubrifier le nez pour pas qu'il y ait d'autres problèmes et d'autres maladies. Des préservatifs, des boules caisses.
Ouais.
Et après, on a des kits plus pour les injecteurs.
Des serviettes hygiéniques, je vois.
Des serviettes hygiéniques aussi.
Il ne faut pas oublier les femmes.
Ouais, voilà, on n'oublie pas les femmes.
J'ai vu que ça se démocratisait un peu plus dans les stands de RDR.
Ouais.
Au niveau serviette, enfin protection, même protection des femmes.
Equinox,
c'est
un très
générale.
Bon kit, une petite pochette très mignonne avec des serviettes, des lingettes intimes, des tampons et du gel hydroalcoolique, ce qui est très sympa. En vrai, c'est très bien, je trouve. Très bonne pensée.
C'est génial parce qu'en free party, par exemple, on a du mal à avoir accès à de l'hygiène. Et du coup, c'est parfait.
Et les petits flyers là, que vous avez sur la table, ça consiste à quoi? C'est des flyers pour donner des informations éventuelles sur les...
Il y a des flyers sur plus ou moins toutes les drogues et aussi sur les pratiques. aussi sur les droits qu'on a en free party, notamment parce que nous, du coup, on est plus sur branché sur l'illégal et donc tout ça, mais on a du, enfin, des flyers sur à peu près toutes les drogues, du speed, taz, GHB, crack, keta, tout, un peu tout quoi. Et tous les flyers ont toutes les informations différentes sur le mode de consommation, la durée, les risques et aussi genre en mode le plaisir aussi parce que c'est pas que du danger quoi.
Aussi en dehors de ça, sur le consentement, sur par exemple la conduite, etc. Ah, on a une femme qui veut parler. Attention, mademoiselle.
Est-ce que tu peux présenter le matos que tu connais?
Alors là,
Rapproche ton micro.
En fait, moi, c'est les anglaises que je fais. Et les paquets de 10. On m'entend pas? Voilà, ouais, on va dire.
Voilà, c'est quoi les anglaises?
Alors, les anglaises, ils sont plus fines.
Oui.
Et ça dépend le produit que tu envoies.
D'accord.
Ça passe très bien.
Oui.
Et s'ils changent. S'ils changent la molécule dedans du produit.
Oui.
Perso, je prends des paquets de 10 parce que la peau, elle devient plus dure.
D'accord.
Alors, je change la. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les anglaises ou les paquets de 10. Bon, les liquides, on va dire.
Liquides, d'accord. Voilà.
Super.
Merci. Est-ce qu'on est prête pour revenir sur les plateaux? On envoie peut-être un petit son pour...
Un petit son, je pense.
Hein? Oh, il y a encore quelqu'un qui veut nous dire quelque chose.
Tu veux...
Ah ouais, mais vous avez dit que vous allez faire le tour des tables au final. Ah ouais, bon, en fait, j'étais occupé. Oui, je pense que vous avez demandé ce que nous avons ici, c'est ça?
Oui, exactement. Oui,
justement, nous avons des kits plus, des kits crack, des autotests pour des personnes qui ne veulent pas se faire dépister et qui se sentent à l'aise de se faire dépister eux-mêmes. Nous les avons là. Et nous avons des hygramines pour des personnes qui s'injectent. C'est une huile qui...
C'est une quoi, pardon?
Oui, c'est une crème cicatrisante.
D'accord.
Oui. Et après, il y a des seringues, les roules tapailles. Et nous avons après tout ce qui est document sur la prévention, comment essayer de limiter les risques. Super. Et nous avons aussi nos éventails.
D'accord.
Pour qui parle sur qui donne toute information sur des produits psychoactifs. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter des risques aux IST et aux maladies transmissibles.
D'accord. Eh bien, merci. Merci beaucoup.
C'est super, merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres personnes qui veulent
parler de
réduction des risques et des matos, on peut envoyer un petit son et organiser les plateaux suivants.
Take the way.
support dans le pays.
Bonjour, car je n'ai pas encore parlé au micro. On est toujours sur Radio Galère 88.4. Donc là, on va parler de ce que c'est d'être une meuf ou un ou une trans ou un PD ou une gouine. Et de consommer. Et ce que c'est un peu dans la vie. Et comment on est stigmatisé ou pas. Enfin, plutôt si. Et voilà, je suis. Donc. Ouais.
Oui, voilà, choper le micro, c'était juste le temps de ça. Du coup, Remalou, j'ai parlé il y a quelques instants, association Nouvelle Aube, donc association d'autosupport qui accompagne les personnes usagères de produits psychoactifs qui sont à risque de contamination de maladies chroniques telles que le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B. Pardon pour les sons, désolé. Et du coup, voilà, par rapport aux consommations et minorités de genre, moi, ce que j'aurais voulu témoigner ou partager des témoignages que avec des personnes que j'ai accompagnées, déjà de manière générale, en tant que consommateur, quelqu'un une personne qui était stabilisée depuis des années sur un médicament prescrit par un médecin, mais qui, un opiacé, a eu des problèmes de santé et a allé aux urgences. Et aux urgences, les médecins ont décidé d'abord de... ils n'arrivaient pas à comprendre la raison de son état. Donc du coup, ils ont arrêté les opiacés. Donc ils ont mis la personne en manque. On était obligé de ramener en cachette les médicaments pour la tenir là-dessus. On a dû appeler un addictologue. C'était un week-end, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Un addictologue pour qu'il explique à l'équipe que non, c'est pas l'opiacé. La personne, elle le prend depuis 20 ans, de la même manière, sur le même dosage. Donc... l'étiquette, la stigmatisation que déjà peuvent vivre les usagers ont des risques vitaux, en fait. Sans ça, elles seraient mortes, en fait. Nous n'avions pas réagi, cet addictologue qui était garant de ça, ben, je vais la nommer, c'était Istanbul, paix à son âme, d'où le nom HSA, qui a beaucoup milité du coup, pour le HSA. Donc elle lui a sauvé effectivement la vie. On aurait dit un pitbull qui pissait autour du lit parce que justement, fallait à ce moment-là expliquer, poser et s'interposer en fait. Parce que c'était des peurs. Des peurs, des visions que peuvent avoir voilà, l'usager de drogue dans une cave bien dégueulasse. Mais ça, c'est quand même minorité. Entre témoignages, du coup, là sur les minorités, donc en tant que femme enceinte, maman consommatrice, là-dessus, on se cache, on ne le dit pas, on ne peut pas en parler. Et là-dessus, quand on arrive à l'hôpital, quand on apprend qu'on est enceinte, donc les hormones en furie, etc., tout ce qu'on veut faire, c'est faire au mieux. Donc souvent, les femmes, elles vont commencer à arrêter de prendre les produits qu'elles consomment, ce qui est souvent une mise en danger pour le fœtus. Dans ce cas, il y a un risque du coup de perdre l'enfant. Donc là, un accompagnement là-dessus de personnes très informées et non jugeantes est très important et il y en a tellement peu, à savoir à Marseille, je connais uniquement le Fil Rouge qui s'est spécialisé là-dedans. Et même cette équipe qui est spécialisée, elle doit faire des pieds, des coudes sur plusieurs accompagnements qu'on a fait de femmes enceintes. Heureusement qu'on venait à ces synthèses de staff que font à l'hôpital à plusieurs pour expliquer que la personne, au-delà du produit, elle était stabilisée, qu'elle avait l'engagement. Enfin, les personnes se disaient, voilà, dès qu'elle est usagère, donc elle est à la rue. Donc, enfin, les raccourcis étaient horribles. Et d'une même manière, une maman qui est tout honnêtement a dit, voilà, je m'injecte. Mais elle prenait un médicament, mais sauf que l'assistante sociale, quand entendue parler d'éjection, elle s'est imaginée sûrement une ruelle sombre, de l'héroïne, de la prostitution, enfin, plein de choses à lui s'imaginer parce qu'elle a voulu... de suite faire un signalement, donc le risque de se faire enlever l'enfant, pardon, pourtant c'était une maman qui prenait son médicament depuis longtemps, stabilisée, qui aujourd'hui a sa fille qui va bien, qui est scolarisée, qui a une maman épanouie avec un enfant épanoui. Donc effectivement, l'image de drogue que les gens se font à travers des récits de cinéma où on
où les médias sont souvent défavorables pour les personnes. Donc on a encore un long travail à faire et avoir des associations qui se spécialisent, qui sont présentes et au taquet pour pouvoir accompagner les mamans qui du coup sont à des moments de gros doutes. Ben, c'est très important à ce moment-là.
Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent dire quelques petits trucs, sympas ou moins sympas ?
Salut. Bonjour.
Salut.
Bon, alors. Femme seule, pas à la rue toujours, toxicomane. On en voit beaucoup des femmes au quartier ? Pas beaucoup. Pute, sus, bite, nique ta mère. Pardon. Les femmes seules toxico des quartiers sont seules. Seul. Je refuse qu'on paye des grammes. J'ai pas besoin de vous. Voilà.
Ben, merci. J'aime bien ta caricature. Moi, ce que j'entends derrière et ce que je me rappelle souvent, c'est justement en ayant créé des médicaments, des substituts aux opiacés, ben, ça a permis de sécuriser justement d'aller en tant que femme, voilà, d'aller voir des dealers. Qui sont souvent en groupe, donc on est en danger quand on va aller toucher un produit, et heureusement que la substitution a permis de rentrer dans des systèmes de soins, mais les substitutions existent aujourd'hui que pour les opiacés, donc effectivement, parlons de légalisation, effectivement, légaliser les drogues, ça nous mettrait beaucoup plus en sécurité.
On est d'accord.
Et ce qui ramènerait aussi des sous dans les caisses de l'État pour encore plus faire de la prévention de tous les risques qu'on prend.
Pour la sécurité, je suis d'accord que les associations s'y font attention, mais aussi de nous-mêmes. C'est pas de le faire n'importe où et de jeter.
Pardon.
Et de jeter nos seringues ou quoi. Ça nous coûte quoi de les prendre et de les ramener aux associations ou les mettre dans une bouteille et de ne pas le faire devant tout le monde parce qu'il y a des petits. Je parle, je suis maman, je suis même grand-mère. Et voilà, et j'aimerais pas que les petits voient ça dehors. Comment vous voulez que les personnes ils nous cataloguent pas et qu'ils nous mettent tous dans le même sac, même les personnes qui sont propres, qui savent qu'il ne faut pas le faire dehors. Mais malheureusement, on est vus tous pareils, dans le même sac. Voilà.
Mais tout le monde est dans le même sac, parce que c'est toute la même stigmatisation.
Parce que vous aidez, alors pour les personnes, les autres personnes, ce n'est pas normal que vous êtes là pour nous aider. Et heureusement qu'il y a les associations, parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde, il ne serait plus de ce monde. Et sinon, c'est la guerre. Voilà. Et les dealers, c'est pas bien ce qu'ils font. De profiter des femmes, de coucher ou de faire, vous savez quoi, entre guillemets, pour une dose. C'est pas bien, les dealers, ce que vous faites aux femmes. Voilà.
C'est pas alors, bien, les tocomales, ce que vous faites aux femmes et aux hommes.
Ouais, j'aurais bien aimé aussi donner un peu mon avis là-dessus de femme à la rue, consommatrice, du coup. Et proportionnellement, le taux d'hommes consommateurs est largement supérieur. On est à peu près à 80-20.
Je crois que... si on parle de statistiques de ASUD, c'est...
82, 17,
ouais, c'est 80,
18.
On avait regardé 82% d'hommes qui viennent au CARUD.
Et 18% de femmes.
Et 18% de femmes. Et du coup, pour info, il y a une permanence femme tous les mardis à 10h au Tipeee. Pour les meufs et consommatrices de drogue.
Les statistiques, c'est les statistiques. Il y a beaucoup plus de femmes qui consomment que ce qu'on croit. Parce
exactement.
Qu'elles sont plus discrètes.
Exactement.
Uber Coke.
Et du coup, étant une consommatrice dans la rue, j'ai beaucoup eu affaire de l'oppression masculine. En fait, il faut se masculiniser. En fait, il faut survivre. C'est difficile. Il faut être sur plusieurs plans à la fois. Notamment, il faut pouvoir gérer et les mecs et sa consommation et le faire en même temps, ce qui est très difficile parce que du coup, tout le monde consomme à la même. On consomme tous. Mais nous, on a un travail en plus en fait en tant que femme, c'est de pouvoir gérer et de jamais être soit trop bourré, soit trop. Il faut pas tituber et tout parce que on est vite prise en tant que victime potentielle en tout cas. On peut se faire suivre, on peut se faire, dans des groupes, même dans des appartements, des trucs. Bon, ça peut devenir très glauque rapidement. Et justement, moi, par exemple, je voulais rebondir aussi là-dessus. C'est que, par exemple, pour la consommation, enfin pour l'achat, je suis obligée de demander à des potes, des collègues masculins. Parce que je ne peux pas consommer moi-même. Enfin, voilà. Parce qu'il y a une discrimination. Voilà, il y a une discrimination là-dessus, sur l'achat même. Voilà. Voilà.
Moi, je voulais parler de des tox et trans, parce que du coup, il y a une peine encore en plus. Du coup, sur, je pense que on pourrait peut-être mettre la capsule de Emma Laura qui. Du coup, parle de son vécu, qui a 20 ans et qui a une analyse du monde qui est assez incroyable.
Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Emma Laura. Je suis une femme transgenre de 20 ans maintenant. Je vais vous parler de mon expérience personnelle en tant que femme trans dans la communauté. Et des discriminations qu'on peut même vivre à l'intérieur de la communauté transgenre, parce que ça existe. La discrimination n'est pas réservée au monde hétéronucléaire, elle existe aussi chez les queers. Y a beaucoup de personnes qui sont concernées par le même sujet qui est l'isolement. Il y a beaucoup de personnes qui sont isolées dans la communauté transgenre, liées souvent à la consommation de produits lié du coup à plusieurs problématiques, mais moi je vais parler de mon cas personnel pour le coup, je vais pas généraliser. Moi j'ai rencontré la drogue, c'était quand j'avais 17 ans, j'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance par une mesure, tout d'abord j'ai eu une mesure AEMO. Qu'est-ce que c'est AEMO? C'est un accompagnement éducatif en milieu ouvert, et qui a donné suite à un placement par le juge des enfants de la cour d'Aix-en-Provence. Du coup, j'ai enchaîné les foyers, j'ai commencé par installer un foyer sur Salon de Provence, du coup dans les Bouches-du-Rhône. Ensuite, j'ai été du coup orienté dans un foyer sur Marseille, du coup dans le 13e arrondissement. Il y a beaucoup de problèmes en interne, hein, je vais pas mentir, notamment sur les représentations, les idées, et aussi il n'y a pas de formation, où les éducateurs ne sont pas formés aux questions d'identité de genre, et il y a même des éducateurs qui pas harcèlent, mais qui ont des propos qui n'ont pas lieu d'être envers des personnes en pleine construction. Et il y a beaucoup de problèmes de bullying, de harcèlement au sein de l'aide sociale à l'enfance, et notamment au sein des foyers, et je pense, pour mon opinion personnelle, qu'il y a un manque de moyens et de places qui font que les éducateurs sont la plupart du temps dépassés, mais très mal formés. Du coup, voilà, et je pense que déjà le fait de placer un enfant, c'est un choc pour l'enfant, et ça peut créer, ça peut avoir des conséquences sur la santé mentale d'autrui. Et ça peut également faire place à des comportements, j'aime pas dire borderline, mais des comportements à risque, du genre on identifie beaucoup ça dans les foyers en général, et en tout cas ça a été mon cas pour moi. La consommation de produits stupéfiants est très présente, très très jeune, dans l'enceinte même des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Bon, petit aparté, hein, moi j'appelle ça aujourd'hui, peut-être que ça aide certaines personnes, pour moi j'appelle ça l'aide à la destruction de l'enfance. Voilà, c'est mon opinion personnelle. J'ai perdu plusieurs copines cette année, dont une qui était placée avec moi, du coup à Salon de Provence. C'était une personne incroyable, on était ensemble en foyer à Salon de Provence, on s'est même retrouvés par hasard dans la même unité pédopsychiatrique qui était l'unité de soins intensifs pour adolescents. Une fois que j'étais parti du salon, on s'est retrouvés là-bas totalement par hasard. Et pendant plusieurs années, on s'est suivis, on a fait des manifs ensemble. Il m'a fait découvrir beaucoup de choses. Il était inoué, il sera toujours d'une intelligence inouïe. Et en fait, le problème, c'est que de plus en plus, il y a un truc qu'il faut essayer d'accepter mentalement, c'est que plus on va grandir et plus on va perdre des proches, des personnes qu'on a connues. Et notamment les communautés les plus minorisées, c'est les plus touchées par, du coup, ces enchaînements susceptibles de décès. Et on peut constater notamment qu'il y a beaucoup plus de suicides et beaucoup plus d'overdoses et beaucoup plus de problèmes de ce genre. C'est les personnes LGBT, notamment chez les personnes trans, et notamment aussi les personnes transracisées, et qui est encore plus, beaucoup plus stigmatisée dans la communauté. Et en général, il y a vraiment un gros travail à faire, je pense, en France et ailleurs, sur tout ce qui est question de liberté. Je pense qu'on n'a pas la même définition de liberté, et notamment d'égalité. L'égalité, c'est pas sur un point moral, c'est l'égalité entre toute l'humanité, en fait. Il n'y a pas de meilleur humain ou de mauvais humain. Je pense qu'on devrait tous être considérés à notre juste valeur et qu'il ne devrait pas avoir de différence par rapport à nos différences, car la différence, on ne la choisit pas. Et la différence, c'est ce qui fait la richesse et la diversité.
Solidarité avec les TPG du monde entier. Police partout, justice nulle part. Siamo tutti antifascisti.
Et voilà, nous sommes toujours en direct sur Radio Galère. Alors on est très triste, mais le direct va se terminer dans pas trop longtemps. Mais on peut encore un petit peu discuter. Par exemple, là, il y a Clem qui me colle beaucoup trop pour parler. Je t'écoute.
On me fait des signes de me rapprocher de toi, donc écoute, j'en profite. C'était une belle journée ensoleillée, effectivement. C'est la 11e année, je crois, que y a la campagne Support Don't Punish existe. Et donc aujourd'hui, on a essayé de montrer un peu tout ce qui existait en termes de réduction des risques, comment ça pourrait être autrement que juste de la répression, avec les acteurs locaux qui œuvrent dans ce domaine. On a essayé de vous montrer tout ça, de faire témoigner les personnes concernées en premier lieu. Et voilà, ma foi,
normal.
On essaye d'être présent et on sera encore présente et présent l'an prochain et aussi toute l'année en se mobilisant et en vivant nos vies du quotidien. Et voilà, donc c'est une journée vraiment annuelle pour essayer de mobiliser, pour sensibiliser à dire que d'autres politiques publiques concernant les drogues sont possibles. Et qu'on lâchera pas l'affaire et qu'on existera toujours. Donc ça fait plus de 50 ans qu'on a une loi qui pénalise l'usage des drogues en France. Et on lâchera pas l'affaire jusqu'à ce que cette loi n'existe plus, que les drogues soient au moins dépénalisées.
Prohibition.
Moi je voulais juste rajouter que pour revenir sur le sujet, qu'il y a des meufs trans en ce moment à Paris qui montent des permanences qui s'appellent Trans et Tox et qui essaient de se retrouver pour parler de leur consommation et de comment elles peuvent vivre. Il y a plein de manques en fait par rapport aux accompagnements qui sont spécifiques aux personnes minorisées de genre. Et en fait, il y a plein de choses qui vont arriver, des personnes concernées, et c'est aussi ça, la RDR, ça apprend à la péridance, le sujet qu'on n'a pas pu aborder ce soir, mais qu'on en parlera peut-être.
Et les trans, souvent, sont considérés comme des tapins.
Oui.
Et on n'a pas eu l'occasion non plus de parler de rentrer tant que ça dans la question de la répression, mais voilà, on est vraiment dans une période où on a un gouvernement qui est... On ne sait pas demain quel gouvernement on aura, mais en tout cas, celui actuel, encore actuel, il a vraiment tout mis en œuvre pour être dans le tout répressif, en essayant de repénaliser l'usage de drogue, que ce soit par l'amende forfaitaire, qui, dans les Bouches-du-Rhône, on est le département qui reçoit le plus d'amendes pour usage de stupéfiants, donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui tombent, ou que ce soit par des tests salivaires à la campagne pour les personnes... qui conduisent et puis qui se font prendre avec un taux dans le sang qui ne correspond pas au fait qu'ils aient consommé récemment, qu'ils soient sous l'emprise, mais juste sur le fait qu'ils ont consommé même plusieurs jours avant. Donc voilà, c'est vraiment le fait de... Enfin, on est vraiment dans une logique de retaper sur les consommateurs et puis de culpabiliser beaucoup les consommateurs sur l'existence du trafic et tout ça. Et voilà, donc c'est une période assez triste et puis qui, est, voilà, qui réaffirme un peu vraiment la politique de prohibition qu'on a dans ce charmant pays dans lequel on vit. Mais heureusement, il y a d'autres choses et puis on se mobilise pour que ce soit différent. Ouais, et puis...
Vive la solidarité, vive la solidarité entre nous. Toxicomanes et non toxicomanes, ceux qui soutiennent et ceux qui soutiennent pas. Gros bisous à tous.
Merci à tout le monde d'avoir été là.
And it fits like a glove. I'm addicted to you.